nouveau dimanche qui nous fait avancer vers le carême, le dimanche du Fils prodigue ou du Père miséricordieux. Je voudrais aujourd'hui vous inviter à vous élever, ou à nous élever, parce que je fais partie du lot, évidemment, à une dimension supérieure. Je vais vous expliquer après. Je voudrais vous faire passer de l'attrition à la contrition. Pour ce faire, je vais vous expliquer après, pour ce faire, souvent, ce dimanche-là, du Fils prodigue, on lit l'Évangile et on le regarde, on le comprend d'une manière morale, en se mettant à la place du Fils prodigue, qui effectivement nous décrit bien. Le Fils prodigue représente l'humanité et chaque homme en lui-même, évidemment. On peut encore une année faire une homélie là-dessus, si vous voulez. Donc je n'efface rien à cela. C'est une réalité objective de la signification de cet évangile. Mais aujourd'hui, cette année, je voudrais prendre le même passage, mais avec, si je puis dire, de l'autre côté de la barrière du ciel, avoir du côté du Père miséricordieux. C'est une révélation, cet évangile-là. Par cette parabole, le Christ nous montre, Jésus nous montre, qui est le Père éternel. Et c'est à cela que je voudrais attirer votre attention aujourd'hui. Sur l'attrition, je reviendrai tout à l'heure. Toute proportion gardée, parce que la parabole, on n'a pas à prendre forcément tous les mots et les appliquer directement à un personnage ou à une situation, une certaine souplesse dans la compréhension. Et on peut considérer que le Fils prodigue, à ce moment-là, le mot prodigue n'est plus juste, évidemment. Encore que le Fils prodigue peut être le Christ. En effet, et ce qui m'amène à vous dire ça, c'est que nous avons fêté, juste cette semaine, nous avons fêté l'épapante, la sainte rencontre du Sauveur, enfant, 40 jours, qui a été reçu dans les bras du vieillard Siméon, et qui immédiatement l'a reconnu comme étant loin du Seigneur, comme étant le Christ qu'il attendait et que les pauvres, selon Dieu, attendaient depuis des générations et des générations. Cette démarche du Seigneur qui se fait d'abord enfant, qui s'incarne dans l'humanité, qui ensuite vient au temple, mené par sa mère et son père adoptif, et pris dans les bras du vieillard Siméon, c'est la rencontre du peuple avec son Dieu incarné. Et ça correspond exactement à l'évangile que nous lisons aujourd'hui, et je ne peux pas ne pas faire le lien entre les deux. Il y a encore cet évangile, c'est encore une sainte rencontre. Vous allez voir. Nous maintenons évidemment que Jésus n'a jamais péché. Donc en ce sens, la parabole ne s'applique pas directement à lui. Cependant, la deuxième personne de la Trinité, le Christ, s'est incarné, il est devenu homme, et il a pris sur lui toute notre nature humaine, dans son état actuel, c'est-à-dire dans sa déchéance. Et saint Paul dit que le Seigneur s'est fait péché pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il a fait des péchés, mais ça veut dire qu'il a pris notre condition pécheresse. C'est-à-dire que en s'incarnant, en devenant homme, il a assumé cette nature décrite dans cet évangile du fils prodigue qui était parti à l'étranger. Et effectivement, le Seigneur est parti dans un pays lointain du ciel. Il est descendu sur terre. De sa nature divine, il a acquis la nature humaine. Et il a eu faim. Il a vécu comme les hommes. Il a assumé pour notre salut, dès sa petite enfance, dès sa naissance et même dès sa gestation, il a assumé pour nous, par amour pour nous, ce que nous sommes nous-mêmes. Donc, à ce point de vue-là, on peut dire que le Christ est devenu lui-même fils prodigue. Il a épousé le fils prodigue. Il a assumé la condition du fils prodigue. Donc, il est devenu lui aussi fils prodigue. C'est une fois de plus une manifestation d'un autre mot, d'un mot que l'on prononce souvent ici, de sa kénose, n'est-ce pas, qui est fondamentale dans la révélation chrétienne, comme quoi le Seigneur a renoncé librement à l'exercice de sa gloire qui lui revient en tant que Dieu pour assumer réellement, sans jouer, sans tricher, toute notre nature humaine pour nous faire participer à sa nature divine par l'union de l'un et de l'autre. Donc le Seigneur se fait péché pour nous. Le Seigneur assume notre nature. Et quand, pour vous montrer que mon analyse n'est pas uniquement une vue de mon esprit individuel et d'une d'élucubration personnelle, je voudrais vous faire remarquer que dans cet évangile, on voit que le fils prodigue rentre en lui-même. Il rentre en lui-même et dit « Tant de salariés de mon père ont des pains en surplus », etc. Hein. Rien que ce mot « rentrer en lui-même », qu'est-ce que ça signifie? Pour le cas du fils prodigue lui-même, ça veut dire qu'il fait un retournement, une métanoïa, un retournement intérieur, c'est-à-dire une conversion. Pour ce qui est du Christ, si on attribue cette analyse de cet évangile comme s'adressant au Christ ou s'agissant du Christ, on voit que le Christ rentre en lui-même puisqu'il s'incarne. En s'incarnant, il rentre en lui-même. N'a-t-il pas dit, Père, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi, eux en moi, moi en eux. Et moi en toi. Je résume pour aller vite, mais c'est une forme de rentrer en lui-même. Il prend possession de la nature qu'il a adoptée. Un peu plus loin, quand le fils prodigue décide de revenir vers son père, il dit « Je me lève ». Il dit pas « Je vais me lever ». Il dit « Je me lève ». C'est-à-dire que la décision est prise. Et je me lève et j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Le mot grec qui correspond à je me lève, c'est anasta. Je l'ai sous les yeux, anastas. Je l'ai sous les yeux pour ne pas me tromper. C'est le mot qui a donné l'anastasis, c'est-à-dire la résurrection. Et vous voyez que si c'est dans l'analyse que je fais aujourd'hui, en voyant le Christ comme étant la description du fils prodigue, comment il nous sauve, comment il revient vers son père, par l'anastasis, par la résurrection. Ce n'est pas fini. Après, il dit, je me lève, anasta, et j'irai vers mon père et je lui dirai. Et alors, qu'a fait le Christ après après sa résurrection? Il est monté aux cieux. Il est revenu vers son père, comme le fils prodigue revient vers le père qu'il n'avait jamais. Vous voyez, dans cet évangile, on voit cette descente, cette descente de Dieu en la deuxième personne de la Trinité sur terre parmi les hommes et cette remontée vers le Père. Et comme je vous disais tout à l'heure que c'est une révélation sur qui est le Père, pour l'instant j'en suis qu'à vous parler du Fils, mais quand on voit qui est le Père, voyez avec quelle attention, avec quelle attente, quelle presque angoisse on pourrait dire, le Père attend le retour de son Fils. Il est encore éloigné, à grande distance, mais son Père le voit. Il est remué jusqu'aux entrailles, il court se jeter à son cou et le baise longuement. Cette attente du Père, l'attente du Père éternel, était une pédagogie. C'est-à-dire que le Père laissait le Fils prodigue, c'est-à-dire l'humanité, mûrir petit à petit, de manière à ce que, en profondeur, l'humanité puisse changer, puisse faire ce retour sur elle-même, puisse faire provoquer cette conversion vers Dieu. Et j'en arrive à ce que je vous annonçais tout à l'heure, ces mots que le fils prodigue dit à son père: « Père, j'ai péché envers le ciel et à ta face, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils », c'est vraiment l'expression du vrai repentir. Quand on lit superficiellement cet évangile, nous avons la tentation de penser qu'après tout, sa conversion était bien intéressée. Il avait faim, il aurait bien voulu se nourrir des caroubes qu'on donnait aux cochons, il n'avait même pas ça, donc par intérêt, il revient vers son père. Peut-être qu'au début, il y a eu un intérêt, mais il n'y a pas lieu, il n'y a pas de raison de douter de la sincérité de la conversion de ce fils, et sinon, le Christ n'aurait pas inventé cette fable, cette parabole, pour mettre ainsi en valeur ce qu'est la conversion de cet homme. Parole intéressée, certainement pas, parce que il dit: j'ai péché envers le ciel et envers ta face. Non seulement, c'est-à-dire que il se retourne, le retournement qu'il opère alors qu'il était encore au loin, va jusqu'à ne plus s'intéresser à son malheur à lui-même, mais à s'intéresser à la peine qu'il a fait à son père. Et c'est là où il y a un passage, celui que j'ai annoncé avec deux mots compliqués tout à l'heure, l'attrition et la contrition. L'attrition, c'est le dégoût, si vous voulez, le regret du péché pour les conséquences que l'on subit. Le fils prodigue connaissait l'attrition quand il voyait les porcs se nourrir de caroubes et que lui aurait bien voulu se remplir le ventre aussi un petit peu. Là, c'était intéressé. Il regrettait son péché, mais il regrettait son péché par intérêt personnel. Mais sa conversion évolue en allant vers le Père, en revoyant le Père. À ce moment-là, ça devient une véritable contrition, c'est-à-dire encore un dégoût et un rejet du péché, mais non plus pour les conséquences qu'il subit lui-même, mais pour la peine, si je puis l'appeler ça, pour le préjudice qu'il a fait à celui qui l'aime et qu'il aime malgré tout. Et l'entrée dans le carême, qui va se faire dans deux semaines, nous invite à passer effectivement de l'attrition à la contrition, de passer de la peine, du regret des fautes à cause de l'éloignement que l'on ressent de Dieu, à cause des malheurs ou des déséquilibres qui se créent en nous à cause de notre péché, pour en arriver à la vraie contrition, le pardon, la demande de pardon d'avoir blessé le Père éternel. C'est tout un changement radical qu'il faut apprendre par la prière, avec patience, mais vers lequel il faut s'orienter de manière à... Parce que la vie chrétienne consiste à apprendre à recevoir, à sentir le pardon de Dieu et nous à apprendre à aimer Dieu en réponse à son pardon. Je pense ne pas me tromper dans cette analyse un peu audacieuse, parce que les mots qui suivent encore semblent l'indiquer. Quand le Père reçoit son Fils prodigue, entendez donc l'humanité qui retrouve le Père éternel dans le paradis, le Père dit immédiatement, vite, apportez-lui une tunique. Et je regrette, je ne suis pourtant pas un linguiste, mais je regrette que les traductions que l'on utilise soient déjà des analyses ou des explications données, mais qui affadissent les textes, et notamment le texte évangélique, et c'est dommage. Dans le texte grec originel, il est dit, vite, apportez une tunique, la première, et on traduit toujours par la plus belle. Évidemment, c'est logique, la plus belle que le... Mais c'est voir les choses d'une manière humaine. Si nous lisions l'évangile tel qu'il est écrit en grec, tel qu'il est transmis en grec, nous verrions que de dire apporter une tunique, la première, ce n'est plus une question de beauté. Quelle est la première tunique? C'est la tunique que Dieu avait donnée à l'homme, la tunique qu'il avait donnée à l'homme dans le paradis. Si bien que dans le cadre de l'analyse que je fais aujourd'hui, on voit que la tunique première qui est donnée est une recréation, si on peut dire, une recréation de l'humanité auquel le Seigneur redonne la beauté première, la beauté qu'il avait dans le paradis avant que le péché ne se manifeste. C'est-à-dire que le Père miséricordieux revêt le Fils prodigue comme il avait vêtu Adam. Et il ajoute, donner un anneau à ses mains, des chaussures aux pieds, on peut encore donner d'autres explications allant dans le même sens, si vous voulez, mais je ne veux pas trop prolonger ce discours, mais il ajoute aussi apporter le veau gras. Quel est ce veau gras? C'est le veau gras des sacrifices, évidemment. Et ne faites pas de caricature qui serait blasphématoire, mais en tant que sacrifice, le Christ lui-même est en quelque sorte ce veau gras. Et celui qui a été immolé. Donc, apporter le veau gras, vous voyez le don de la tunique première, de la beauté de l'humanité quand elle avait été créée à l'image de Dieu. La tunique, c'est évidemment le Christ lui-même que l'on revêt. On devient le Christ, on est revêtu du Christ. C'est la raison pour laquelle on met, par exemple, au moment du baptême, on met une tunique blanche au nouveau baptisé. Mais en même temps, on immole le veau gras, on fait un sacrifice, on offre un sacrifice qui n'est pas autre chose que le sacrifice que le Christ a fait en mourant sur la croix et en ressuscitant. Même cet unique sacrifice auquel on participe nous-mêmes par l'Eucharistie, donc par la communion. mais repensez-y, et sous cet autre angle, pas simplement en nous voyant humblement ce qu'on doit faire, bien sûr, comme étant le fils prodigue, mais comme nous étant fils prodigue, de voir que le fils devient prodigue pour nous, assume notre condition pour nous élever à sa condition, pour nous revêtir de ce qu'il est, faire de nous d'autres à être le Christ. Et c'est le seul moyen pour apprendre à aimer véritablement le Père, et pas simplement à suivre l'Évangile ou les préceptes de l'Église et tout ça, ni par devoir, ni pour une question morale, mais vraiment parce qu'il y a un lien vital entre Dieu et nous, et ce lien vital, c'est ce lien d'amour que le Père nous accorde de manière à nous rendre heureux de son bonheur à lui. C'est ainsi, par exemple, que dans la prière, apprenons à dépasser les demandes que nous pouvons faire au Seigneur d'une manière intéressée pour plus simplement le faire entrer en nous pour que ce soit lui qui prie en nous et que ce soit plus nous qui vivions, mais que ce soit lui qui vive en nous. Ça paraît impossible, ça paraît énorme, mais c'est prodigieux. Et si c'est énorme pour nous, si nous on ne peut pas le faire, le Saint-Esprit peut le faire en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui peut descendre dans notre cœur, et il ne manque pas de le faire, à chaque fois que nous l'invoquons, et à chaque fois que nous communions, notamment que nous sommes en communion. Et c'est ce qui, dans l'Évangile, on voit par ailleurs, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, et Dieu descendant en nous est capable de faire ce changement, ce retournement en nous. Et que surtout, personne ne s'estime trop pécheur pour que ça puisse se réaliser, ça puisse être efficace, sans vouloir vous scandaliser, mais sans non plus prendre ceci à la légère. Ce ne sont pas les péchés qui nous séparent de Dieu, ce sont les conséquences du péché qui font que l'homme, à l'intérieur de lui-même, se disloque, que l'homme se soucie pour lui-même, que l'homme perd de sa confiance en Dieu en disant « Oh là, j'en ai trop fait pour que Dieu puisse me pardonner ». Qui est capable de se mettre à la place de Dieu pour savoir ce qu'il est capable de pardonner ou de ne pas pardonner? Et cet évangile-là, comme beaucoup d'autres passages de l'évangile, nous montre que le Seigneur, justement, pardonne toutes nos fautes dès lors qu'on fait ce retournement comme le fils prodigue et qu'on revient vers lui avec humilité en disant « J'ai péché contre le ciel et contre toi et à ta face ». Donc le carême n'est pas simplement un exercice ascétique qui accompagne aussi réellement notre conversion, mais c'est un appel à participer à cette joie de se savoir pardonner, de se reconnaître comme des enfants de Dieu et d'en être joyeux, joie qui va être exprimée dans la nuit pascale, et j'espère toute la vie, et notamment lorsqu'on se donnera mutuellement le baiser pascal, qui répondra lui-même au premier baiser qu'on va se donner le soir du dimanche du pardon, en se demandant pardon, c'est-à-dire en ayant la même attitude que celle du fils prodigue, qui vis-à-vis de tous ceux qui sont nos frères, à l'égard de tous ceux qui sont nos frères, de leur demander pardon parce que j'ai péché contre toi et contre ta face.